la dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore, et prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Meige, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Anna Segalevitch, Marie Henroux et Guillaume Thion. C'est une première pour vous Guillaume, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonsoir à vous. À notre affiche pour cette première de Guillaume Thion, Il Barbière, Il Similia, l'opéra de Rossini dirigé par Jérémy Rohrer dans une mise en scène de Laurent Pelli. C'est à l'affiche du Théâtre des Champs-Élysées. La Bohème, Puccini, direction Gustavo Dudamel, mise en scène Klaus Gut à l'Opéra de Paris. Et puis un CD, Fantaisie et Sonate de Mozart, par Menahem Pressler, chez La Dolce Volta. Boris Pinault est devant ses écrans, prêt à donner à entendre des commentaires qui pourraient surgir via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la pièce chorégraphique Professeur de Maud Le Pladec. Ce sera dans le festival Danse de Cannes. Spectacle qui aura lieu samedi 16 décembre à 18h au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Et nous vous ouvrons cette émission avec une chose devenue rare, une mise en scène de Laurent Pelli présentée à Paris. Il s'agit là d'une mise en scène lyrique. Ces mises en scène théâtrales sont, elles, beaucoup plus rares encore. On pourra se rattraper au printemps avec L'Oiseau Vert. On en parlera sans doute quand il sera à l'affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin. Je commence par cela parce que c'est vrai que je trouve assez étonnant que ce metteur en scène soit aussi peu présent dans la capitale et dans l'Île-de-France. Mais je dis cela... Nous allons parler ce soir de son travail pour cette mise en scène du Barbier de Séville de Rossini présentée au Théâtre des Champs-Élysées. L'opéra, d'après la pièce de Beaumarchais, créée en 1816, 17e opéra de Rossini, qui a 24 ans à l'époque, qui le compose en deux semaines. Une action qui se situe à Séville au 18e siècle, qui va voir le barbier Figaro aider le comte Almaviva à conquérir Rosine. Rosine qui est gardée par le docteur Bartolo, qui compte bien épouser sa pupille. On va voir comment ils vont essayer de contrer les projets du vieil homme. D'abord, nous écoutons la cavatine de Figaro.
Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Ciò valga appena, e amor non si vergogna. Thank you.
Précision importante quand même pour cet extrait de Figaro, on entend le public, mais certes, c'était la générale de cette production. Nous avons vu chacun des représentations un peu différentes et même certaines deux représentations, puisqu'il faut le dire tout de suite, il y a deux distributions, la distribution dite 1, c'est comme ça qu'elle figure dans le programme, et la distribution 2, jeune talent. Jeune talent pour vous, Guillaume
tout
Thion,
fait,
vieux talent pour moi, et mesdames,
on
les,
a fait
deux.
Les deux.
Vous avez fait les deux.
On fait jeune et vieux.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait les deux? Question faussement naïve, Marie Audreau.
Bah, d'abord parce que j'étais assez intriguée, et puis c'est vrai que ça nous avait été largement communiqué, il avait été largement communiqué sur le fait que justement il y avait cette distribution, donc un, qui était un petit peu... Pas des vétérans, mais des gens déjà un petit peu confirmés, qui travaillaient, etc. Et puis, il y avait une deuxième distribution qui s'agrégeait un petit peu à cette première distribution, qui grappillait des miettes, et bon, qu'on faisait quand même travailler, mais qui était visiblement, bon, évidemment, pas ça. Et qui avait la chance de, finalement, de travailler pour la première fois sur une grande scène parisienne, avec un metteur en scène confirmé et un chef d'orchestre également confirmé. Donc voilà. Donc c'était intéressant, finalement, de voir qui faisait, enfin, comment les choses s'organisaient autour de ces deux distributions. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. Voilà.
C'est une très bonne raison. Moi, je serais bien allé voir la distribution 2. Il se trouve que j'ai vu la 1 et que le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis demandé si c'était pas la 2 et que c'était peut-être pour ça aussi, Anna Segalevitch, que vous avez eu envie d'aller entendre les jeunes talents.
Absolument, parce que j'ai été moyennement convaincue par la première distribution et donc j'avais envie de voir ce que ça donnait avec la seconde. Beaucoup pour Alix Le Sau, qui est une jeune chanteuse que je trouve très intéressante. Donc j'avais envie de la voir en Rosine et j'avais envie de voir aussi comment tout ça allait prendre, si le spectacle serait un autre spectacle ou pas.
Bon, vous voulez commencer, puisqu'on est sur la musique, restons-y pour l'instant. Guillaume Thion veut peut-être parler musicalement de ce que fait Jérémy Rohrer dans La Fosse avec ce Rossini qui n'est peut-être pas... Trois petits points, je vous laisse suivre.
Oui, ce qu'il en fait, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a déjà un an, Jérémy Rohrer avait présenté au TCE en décembre un Don Giovanni qui n'était pas extraordinaire, qu'il avait repris à Aix en modifiant certaines caractéristiques de son ensemble et du son, et en ayant un son qui était extrêmement plus travaillé. Et c'est ce son-là qu'on a retrouvé. Enfin, en tout cas, que mes oreilles ont retrouvé au TCE la semaine dernière. Et du coup, j'ai trouvé le son vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il a des basses extrêmement moelleuses et douces, comme on a pu s'en rendre compte malgré la qualité un peu spéciale du document sonore qu'on a entendu. Et en même temps, des accents très abrupts au violon. Et je trouve que ça a un certain charme. Et en plus de ça, sa direction de Rossini, lui qui est un mozartien, avec toutes les correspondances qu'on peut trouver entre Mozart, l'opéra bouffa et Rossini, je la trouve relativement alerte, et en tout cas le jour où j'y suis allé, c'est-à-dire le jour du casting 2, car j'ai eu la chance d'assister dès le début au casting 2, qui ne m'a pas donné envie du coup d'aller voir le casting 1, tellement j'étais content d'avoir vu le casting 2, et bien tout s'est très bien goupillé, et la fosse c'est très bien.
Bon.
Je ne partage pas du tout votre enthousiasme sur l'orchestre.
Moi non plus.
Enfin, voilà, nous étions à la première avec le casting 1 et j'ai trouvé ça mais vraiment très, très lourd d'abord. Et je trouve qu'on l'entend d'ailleurs dans ce... Je ne les trouve pas moelleuses, les basses, pardon. Hein, je trouve qu'elles sont bien en gros sabots. Et les couleurs des instruments sont assez abruptes. Il y a une manière pour moi qui est vraiment un peu hachée, cette manière de jouer Rossini. Enfin, en tout cas, pour mes oreilles, puisque voilà, c'est pas le Rossini fin, délié, élégant que j'aime, et il y a vraiment quelque chose de trop appuyé, de une idée de vouloir faire des effets, et ça c'est quelque chose qui pour moi ne... Et puis j'ai trouvé que finalement il soutenait pas vraiment les chanteurs non plus, hein, parce que parfois on a des voix, bon, on l'a dit, le cast 1, il y avait notamment la voix de la jeune Rosine, qui est
Catherine
Trautmann, qui a un petit calibre, on va dire, et il aurait fallu peut-être alléger davantage l'orchestre, et là il y a des moments où dans les médiums on l'entendait absolument pas. Et d'autres également, donc aussi le Alma Viva, qui n'était pas non plus une grande voix, enfin je veux dire grande projection. Et donc effectivement, enfin moi personnellement, j'ai été déçue, par notamment parce que comme c'est un mozartien que je respecte, je pensais que les qualités qu'il a développées dans Mozart, on allait les retrouver et peut-être alléger encore dans Rossini. Donc mais bon voilà, c'est peut-être une conception rossinienne qui est pas du tout la vôtre.
Ouais, alors je partagerais plutôt le sentiment de Mariano. Moi je l'ai vu dimanche après-midi, donc distribution 1, mais avec des gros problèmes quand même dans la fosse aussi, notamment des cuivres qui faisaient des choses très très curieuses et qui me semblaient pas vraiment à leur place. Et puis effectivement une certaine raideur de Rossini, ça doit être beaucoup plus sensuel, beaucoup plus énergique. Alors là il y avait du rythme, mais un rythme un peu martial souvent.
Il n'y avait pas de rebond. C'est-à-dire qu'on est sur le plantage, si je puis dire. Enfin le fait de planter les pucelles. Et il n'y a pas cette espèce de côté où constamment ça avance. Là, on a l'impression que parfois ça n'avance pas.
Je partage ce que vous dites. C'est vrai que la mécanique qui se met en place, elle n'avance pas en fait. On passe du pianissimo au fortissimo. Je trouve qu'on voit tous les contours de ce qui est proposé. Il y a quelque chose d'assez volontaire. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de raideur et un manque de moelleux terrible. Quand les chanteurs sont un peu fragiles, je trouve qu'on les entend pas totalement. Quand ils sont plus puissants, comme Robert Glido, bah tout d'un coup, hop, il envoie énormément pour aller encore plus fort. Mais non, je trouve que, enfin, l'air de Basilio, notamment l'air de la Calonie, ça commençait pas mal. Puis tout d'un coup, paf, il envoie trop l'orchestre.
Le coup de canon, il envoie un petit peu
à la serpe, quoi. C'est quand même c'est assez brutal à mon sens. Donc je trouve que c'est.
Guillaume, tu en es toujours pas d'accord avec
moi. Brutal, parce que moi justement, j'ai pas trouvé ça brutal du tout. Je vous trouve brutal, mais enfin, en tout cas la représentation que j'ai vue, au contraire, c'est tout coulait très très bien, et justement les moments contrastés étaient faits avec suffisamment de liant pour que ce soit pétillant et en même temps que ce soit pas justement extrêmement sec. Non, il a, pour moi les chanteurs, enfin non, ça fonctionnait très bien.
Il y avait quand même le soir de la première, il y avait la fin de l'acte 1, c'était quand même, il y avait beaucoup de décalage, c'était pas en place.
Du long dimanche après-midi, les décalages étaient énormes.
Il faut dire la
énorme.
Première, beaucoup de décalage effectivement. Oui.
Bon.
Mais bon.
À la mienne.
Mais c'est le spectacle vivant, vous étiez à la bonne représentation, Guillaume Thion.
Oui, mais je dois dire que par ailleurs, ça m'a plus musicalement aussi, hier. Même dans la fosse, ça m'a plus plu musicalement hier, beaucoup plus.
Avec la deuxième distribution.
C'est-à-dire que, alors, je sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est la perception qui est différente, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, vraiment, ce que j'ai exprimé, c'était mon sentiment à la première représentation. Hier, j'ai pas ressenti des choses comme ça. Oui. Il y avait quelque chose, en effet, de bon. Je dis pas que ça m'a totalement convaincue, hein. Non. Mais en tout cas, il y avait une cohésion. Il y avait une cohésion fausse plateau qu'il n'y avait pas lors de la première. Mais parce qu'il y avait aussi une homogénéité plus grande entre les chanteurs. On va pas donner les bons points et les mauvais points. Ça n'a pas de sens. C'est pas intéressant de faire ça. Mais dans la première distribution, il y a quand même certaines personnalités qui sortent de façon évidente.
Florian Sempé,
bien sûr. Robert Glido en Basilio, bien sûr, il sort. C'est des chanteurs qui sont confirmés, qui ont des grandes personnalités, qui ont une aisance et une autorité en scène qui est très claire. Mais dans la seconde, si Guillaume Durieux et comment s'appelle le jeune garçon qui fait Basilio, je ne sais plus,
Guillaume Worms.
A peut-être moins de présence et d'assurance, en tout cas dramatiquement, que Robert Glido, eh ben ensemble, ils étaient absolument ensemble dans le même bateau, et donc du coup ça avançait, l'œuvre avançait. Il y a quelque chose que j'ai senti de statique, un manque de vitalité dans la première, que j'ai nettement moins ressenti. J'ai vu le spectacle avec plaisir hier.
Guillaume Thuron.
Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu donc le cast 2. Il y a un moment qui est formidable, c'est que c'est une prise de rôle pour tous ces jeunes chanteurs. C'est la première fois donc qu'ils chantaient ce rôle-là dans Le Barbier de Séville. Et donc, à l'ouverture, quand le comte Almaviva est arrivé, il y a un moment qui est formidable où il faut chanter, c'est bon, il doit y aller. Il y a un vrai enjeu sur les notes longues. On sent que tout d'un coup, c'est pas du tout l'émotion du personnage qu'on voit. C'est celle du chanteur qui se demande s'il va tenir, si ça va pas trop vibrer, etc. Chacun passe par là. Tout le monde a été, peut-être que ça a bien marché dès le début, tout le monde a été applaudi. Une fois que la pression est retombée, tout le monde était vraiment dans le même bateau, tout le monde allait dans le même sens. Mmh. Et justement, les moments légers, on sentait bien que sur le plateau, dans la fosse et dans la salle, tout le monde, ça pétait, enfin c'était léger quoi, c'est tout le monde s'amusait. Et ça c'est vraiment, c'est pour ça que je ne suis pas allé voir le casting 1 du coup. J'ai envie de, très bon sentiment.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume sur le fait que l'étiage entre les voix était beaucoup plus juste. Mmh. Et j'ai un peu peur de dire que Florian Sempé, finalement avec son espèce de grande voix, était très puissante. Quand il était en duo avec Rosine ou quand il était en duo avec Almaviva, on les entendait pas. Mmh. Donc de toute façon, il y avait une forme d'écrasement de ça et qu'on n'avait pas du tout. Et effectivement, les choses circulaient beaucoup plus. Et c'est très juste ce que vous dites sur les enjeux des jeunes chanteurs, ça je trouve, c'était effectivement palpable et très touchant. Mmh. Et donc on était finalement dans une sorte de, on avait envie de les aider, on avait envie de les suivre et d'une certaine manière on était prédisposés à davantage nous spectateurs s'ouvrir et du coup ça fonctionnait davantage.
Et alors quand Anna Sigalevitch, vous disiez que ça n'avançait pas, moi c'est aussi ce que j'ai ressenti. Hélas, avec cette mise en scène, j'ai dit tout le bien que je pensais de Laurent Pellier, c'est vraiment un metteur en scène que je tiens en très haute estime. Mais là, à l'image de ce qui se passait pour moi dans la fosse et avec les voix, scéniquement, ça n'avançait pas. Alors je trouvais ça très beau quand le rideau s'est levé. Donc ce décor fait de partitions géantes, donc qui vont
vide,
changer.
Vide, je veux préciser. De portée vide.
Portée vide, absolument. Qui vont être, on va écrire dessus par moment, mais et puis ça va, elles vont changer selon les actes. J'ai trouvé ça très beau. Faire un Barbier en noir et blanc, pourquoi pas, c'est assez osé. On en a vu un tellement criard à l'Opéra Bastille il y a peu de temps que pourquoi pas, c'est un choix. Les costumes aussi, enfin vraiment, on a l'impression même presque avec, ils jouent aussi avec les lumières, que les personnes physiques sont en noir et blanc parfois sur le plateau, sauf que pourquoi faire? Quel ennui, et s'ennuyer devant le Barbier de Séville, c'est quand même très triste. Anna Sigalevitch.
Oui, enfin, il y avait déjà eu un Barbier en noir et blanc au Théâtre du Châtelet qui venait de Madrid.
Là, je parle de celui-ci.
Oui, on parle de celui-là. Parce qu'il venait en couleur.
Non, mais il y en a plein.
Oui, pardon, on parle de celui-là. Moi, j'ai été surprise par ce décor, en effet. Je me suis dit au début, ah tiens, c'est parce que Rossini a dû écrire très vite le Barbier. Et donc, pour moi, c'était une mise en abîme de Rossini face à sa feuille blanche qui devait vite composer en 2-3 semaines l'opéra. Je me disais, c'est amusant, tout d'un coup, le compositeur dans l'angoisse de l'œuvre à créer le mois suivant. Bon. Sauf que, en fait, j'ai pas le sentiment que ces partitions se remplissent du tout. Alors oui, il y a un moment donné où il y a des confettis noirs qui tombent, d'accord, mais ça arrive très tard. Et puis ce décor, il ne joue pas.
Le Figaro écrit sur la portée aussi, mais bon.
Un petit peu, mais pas tant que ça.
C'est au premier acte.
Oui, mais ça joue quand même assez peu.
Ah mais bien sûr, oui, c'est un décor.
Très peu. Et ça, pour moi, ça contredit presque l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de notes dans cette musique, ça avance tellement, c'est tellement léger, c'est tellement virevoltant à tout instant, et ce décor imposant, très beau du reste, hein, je suis absolument d'accord avec vous, qui évolue, il y a plein de variations sur ce décor, c'est beau, mais comme ils n'en font pas grand-chose, un tout petit peu Rosine, parce qu'à un moment donné, ça prend un petit peu la forme d'une rampe de skateboard, donc elle glisse un
mais
peu d'un endroit
skate,
à l'autre.
Hélas.
Voilà, la patte skate. Mais donc.
Mais à la limite, j'aurais préféré, peut-être.
Voilà, ça joue pas
en
vraiment.
En plus des vocalises, ça aurait été quand même assez coton à réaliser.
Ouais. Donc du coup, c'est vrai que les chanteurs se retrouvent quand même beaucoup à l'avant-scène. Dans des systèmes. Mmh. Alors, Laurent Pellier sait très bien faire ça, clairement, hein, il y a un savoir-faire, un métier qui est évident, il sait mettre les groupes ensemble, etc. Mais je n'ai pas retrouvé la fantaisie, l'originalité, l'inventivité qu'il y a si souvent dans ces mises en scène d'opéra et de théâtre.
Guillaume Thuron,
exactement pareil que toi, Anna.
Que vous.
Que vous, pardon. Pardon, Anna. Et je pense qu'effectivement, le facteur « je me dis que, qu'est-ce que je vois » est assez marqué. C'est-à-dire qu'effectivement, la musique qui emprisonne, pourquoi pas? Pourquoi ce noir et blanc? Pourquoi nous imposer ce noir et blanc? Est-ce que ça veut signifier l'état symbolique de Rosine avec Bartolo? Est-ce que c'est que le mariage qui est une prison? Enfin, plein de trucs assez ouverts, on se pose vraiment beaucoup de questions. Mais effectivement, tout ça, à mon avis, tourne assez à vide. Et la vraie force de cette mise en scène, que je ne trouve pas formidable, mais qui a quand même une force, c'est justement dans l'énergie des comédiens, des chanteurs, pardon, dans ce qu'ils arrivent à diffuser entre eux, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un va chanter et un autre chanteur va avoir des gestes synchronisés avec le chant. C'est, par exemple, Alma Viva qui entre, qui, évidemment, son solo sur le ciel, regardant Rosine, en regardant le ciel, après, c'est Figaro qui descend du ciel. C'est Basilio, justement, dans l'air de la calomnie, il suffit d'ouvrir les bras pour qu'effectivement, son corps arrive à déployer quelque chose. C'est vraiment là qu'est le prix de ce qu'a fait Pelli. Je pense pas que ce soit du tout dans la lumière, donc moi aussi, je me pose la question, pourquoi cette lumière blafarde? Pourquoi avoir mis autant d'énergie dans les mouvements et dans les gestes pour avoir quelque chose qui est vraiment noyé et pas vraiment formidable à regarder, et puis dans cette scénographie qui est un peu lourde quand même.
Bah, il veut faire de l'expressionnisme, ça, en tout cas c'est...
Ah, c'est ce que c'est tout
ça. Non, c'est ce qu'on peut voir si on regarde un petit peu.
Moi je me suis posé beaucoup de questions aussi sur cette mise en scène, parce que Pelli peut faire des décors assez monumentaux, mais qu'il habite génialement. Mmh. Hein, on a vu des choses, la fille du régiment par exemple.
Ouais. Même le roi Carotte,
voilà, c'était magnifiquement fait. Et là on a l'impression qu'il y a un empêchement total. Pour moi ces feuilles blanches, c'est vraiment des sortes de herses qui empêchent presque. Visuellement, je trouve que ça gêne même parfois l'écoute de la musique, parce qu'on voit les chanteurs vocalisés, et Dieu sait que dans Rossini il y en a, et puis il faut que ça soit énergique, etc. Et puis on voit ces grands murs de blanc avec les petites portées, etc. Les chanteurs qui passent devant, qui essayent de se coucher dessous, qui passent derrière, mais en même temps, effectivement, ça ne joue jamais, parce que c'est comme si on était... Voilà, je sais pas s'il a voulu parler d'un évitement, d'un empêchement, mais en tout cas il y a quelque chose qui rend vraiment la musique presque encore plus difficile pour qu'elle existe. C'est encore difficile de la faire exister. Et d'un autre côté, j'ai été très surprise de voir aussi que notamment dans les ensembles, il y avait quand même des choses extrêmement convenues dans les mouvements. Mmh. Le chœur qui avance une jambe, deux jambes sur les temps, qui se retourne la tête, etc. Mmh. Bref, il y a un moment on a envie de dire, c'est des trucs qu'on a tellement vus que non, pas Monsieur Pelli, parce que justement, on sait à quel point c'est quelqu'un qui peut justement casser ce genre de code. Et là, on a l'impression, est-ce qu'il a eu une panne d'inspiration? Moi, je me pose carrément la question sur la production.
On restera sur cette question. Peut-être juste un commentaire, Boris Pinot, à faire entendre.
Oui, de François Stéron sur Facebook. Il suffit d'écouter l'extrait passé au début de l'émission pour avoir la sensation d'assister à du très vieux théâtre. La direction de Rohrer est boursouflée, violente et sans respect pour les voix.
Bon, on rappelle que c'était la générale qu'on a. L'extrait qu'on a écouté, mais bon, moi j'ai pas entendu mieux, voire même moins bien à la représentation de dimanche. Donc bon. Et on reste là pour Il Barbiere di Séville. Il y a un opéra de Rossini dirigé par Rémy Rohrer, mise en scène Laurent Pelli jusqu'au 16 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. À suivre dans la dispute, la Bohème et les sonates de Mozart.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la musique, avec une autre production lyrique à l'Opéra de Paris, cette fois avec La Bohème de Giacomo Puccini, nouvelle production mise en scène par Klaus Guth, direction musicale pour partie. Ça change parfois. Gustavo Dudamel, qui faisait ici des débuts très attendus à l'Opéra de Paris. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans un cinéma en ce moment. Doit débuter dans 2 minutes, le direct de l'Opéra de Paris, dans quelques salles. On pourra aussi le voir sur Culture Box, France 3 et même TF1, ai-je lu ultérieurement. Opéra en 4 tableaux, d'après le roman d'Henri Murger, de la vie de Bohème, et l'adaptation théâtrale. Bref, l'action se situe dans la nuit de Noël, dans 1830, une bande d'étudiants sans le sou, Mimi et le poète Rodolfo qui viennent de se déclarer leur flamme et qui en font part à leurs camarades, le peintre Marcello, qui avec Musette est plutôt habitué aux scènes de ménage. Sous le bonheur, le drame fait son chemin. On va écouter Sonia Yancheva dans le rôle de Mimi, on est à l'acte 4.
Thank you.
voilà, les extraits de l'Opéra de Paris, où ils s'arrêtent quand les syndicats ont décidé qu'ils devaient s'arrêter. Non, mais il y a une durée limite, il faut dire à nos auditrices et auditeurs qui se demandent pourquoi on chante les airs. Ben, c'est parce que ce sont des accords syndicaux qui font que les extraits doivent être de moins de 3 minutes. Bref, donc nous ne sommes pas responsables.
Mais c'est nouveau, on a eu des extraits plus longtemps.
Mais ça dépend des productions, je crois. Toujours est-il que, hélas, ce qu'on vient d'entendre, Sonia Yontcheva devait chanter pour la dernière fois ce soir, avant que Nicole Carr reprenne le rôle comme prévu, sauf qu'elle n'a chanté que la première, et encore pour partie. C'est ça, les carrières aussi des interprètes. Il y a des problèmes physiques, donc bon, on va peut-être pas parler que de ça, mais plutôt parler de cette production. Peut-être commencer avec vous, Guillaume Thion, je vous ai lu évidemment dans Libération, et vous êtes un des rares peut-être à prendre la défense de cette production. Parlons tout de suite de la mise en scène de Klaus Guth.
Alors, pour aller vite, la mise en scène de Klaus Guth, moi je suis pas vraiment fan de ce qu'il fait, mais là j'ai quand même été agréablement surpris. C'est-à-dire que sur le principe, c'est quand même quelqu'un qui a deux obsessions majeures, c'est le théâtre à numéro, les magiciens, ce genre de choses, le cabaret, les filles, et puis d'un autre côté, les doubles qu'il vient comme ça disséminer sur scène, et en fait tout ça participe d'un grand mouvement de rapprochement de mondes, c'est-à-dire en gros du flashback cinématographique et du théâtre, des mondes inconciliables, et tout ça sur une scène d'opéra. Alors son problème, à mon sens, c'est que en faisant ça, souvent il fait passer son travail de metteur en scène au-dessus de la musique, il le passe en force, c'est-à-dire qu'il vient imprimer une émotion scénique à des scènes qui normalement pourrait ne pas en avoir besoin. Cas typique, Rigoletto, avec des scènes formidables entre Gilda et Rigoletto. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir Gilda jeune venir perturbée par un flashback, des scènes formidables. Là, ça marche très bien puisqu'il a escamoté toute l'histoire. C'est-à-dire que normalement, Mimi est là, au premier degré devant nous. Là, elle n'est plus là. L'histoire se passe dans l'espace, dans un temps largement dépassé par rapport à la mort de Mimi. Rodolfo est seul avec ses camarades Colin, Marcel, Chonard, etc. dans une station spatiale. Il se remémore plein de choses. Donc, tout ça n'existe pas. L'écueil de cette transposition, qui n'est pas plus bête qu'une autre, parce qu'une fois qu'on commence à transposer, que ce soit dans la guerre de 100 ans ou dans l'espace, ça revient au même, c'est toujours une hérésie. Enfin, l'écueil de cette transposition, donc, c'est que, mine de rien, il va un petit peu à l'encontre de ce que voulait Puccini, c'est-à-dire les émotions ne sont pas les mêmes. Il y a une espèce de synthèse des émotions, c'est-à-dire que là, Rodolfo est vivant quand Mimi est morte dès le début, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais du coup, en revanche, on assiste à tout le poids dramatique qui est porté sur Rodolfo. C'est un petit peu, en fait, cette bohème, il faut la considérer un petit peu comme la revanche de Mimi. C'est-à-dire Rodolfo qui aurait pu aider Mimi au premier degré, qui ne l'a pas fait, qui s'en mord les doigts. Et ben là, c'est lui qui meurt, puisque Mimi est déjà morte. Et c'est un petit peu la revanche de Mimi, en un sens. C'est-à-dire que voilà, c'est de sa faute. Et c'est à lui de le faire. C'est à lui maintenant, justement, d'en payer le prix. Ce qu'on a en germe dans le roman et dans l'opéra. Et même dans le roman, ça va plus loin parce qu'il y a tout un pataquès sur la mort de Mimi à la fin. Bref, il est encore deux fois plus coupable. Et là, en fait, cette culpabilité, eh ben, elle aboutit à la mort de Rodolfo dans un scaphandre de cosmonaute sur la Lune. Et voilà, et c'est très bien.
C'est bien fait pour lui. Anna Segalevich.
Ben, alors, on peut voir ce qu'a vu Guillaume Thion, en effet. On peut dire que, en effet, au départ, ils brûlent le manuscrit, donc ils réécrivent l'histoire. Voilà, tout part en fumée et on recommence. Et c'est à nous de raconter ce qu'on a envie de raconter, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Alors, flashback, pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Et c'est ce que j'aime dans cette mise en scène, c'est qu'il y a quelque chose de brumeux. Est-ce qu'on est beaucoup plus tard? Est-ce qu'ils sont juste dans l'espace et ils ont besoin de théâtre et de romanesque pour continuer à vivre? Qu'ils ont besoin d'amour, tout simplement, pour continuer à tenir, alors qu'ils savent qu'ils sont totalement en péril et foutus dans cette capsule? Est-ce qu'ils se remémorent ou est-ce qu'ils inventent? Ou est-ce que, voilà, il a plein de remords parce qu'il s'est trompé, ce Rodolfo, et donc qui réécrit l'histoire. Est-ce que Mimi est morte ou pas? Oui, bien sûr, c'est un spectre. Mais de toute façon, voilà, ce qui compte, c'est qu'ils sont dans des mondes différents et qu'ils réinventent un monde ensemble pour se retrouver. Voilà, qui peut être le monde littéraire, qui peut être le théâtre. Moi, je trouve que c'est assez beau comme idée. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai cru à cette histoire. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, il y a plein de choses possibles, mais moi j'ai cru à ce début où ces quatre jeunes hommes sont là, dans cette capsule, où ils ont besoin de vivre ensemble, on sent la fraternité, on sent la la fraternité entre les deux. On sent que, de toute façon, ils sont complètement à la dérive, donc autant être totalement au présent. Et comme rarement on a senti ces quatre personnages très au présent, ils s'amusent ensemble. Le personnage de Benoît, par exemple, le propriétaire, c'est un pantin et il joue avec lui. Enfin, il y a quelque chose de très vivant dès le départ, avec des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins dans la production. Moi, je suis pas convaincue partout, mais j'ai été prise de bout en bout et je trouve que l'émotion qui naît, qui est quand même une gageure avec ce parti pris-là, et profonde.
Marie Audrouf.
Bon, alors je vais rajouter mon grain de sel, parce qu'effectivement je fais partie aussi des personnes qui ont apprécié la production, précisément parce que déjà j'ai été saisie par la beauté de l'image dès le départ, et qu'ensuite effectivement j'ai été prise par l'histoire. Et je dirais presque à mon corps défendant, parce qu'on connaît l'histoire de Mimi, mais quand même je dois dire que pour moi qui ne suis pas une fan de cet opéra, c'est-à-dire très souvent j'ai vécu les histoires entre les étudiants comme une sorte de prélude de mise en attente de la vraie rencontre amoureuse, où il se passe rien, hein, parce que ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se séparent et puis après elle vient mourir. Donc c'est degré zéro de l'histoire d'amour à l'opéra quelque part. Et là, ces quatre étudiants qui vivent ensemble et qui etc. Tout d'un coup ils ont une présence qu'ils n'ont habituellement pas. On attend un peu que ça se passe d'habitude. Et là, tout d'un coup, on est vraiment avec eux. Et c'est la vie de bohème réellement qui apparaît. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'histoire d'amour et on est. Qu'est-ce que c'est que ces quatre personnes? C'est un peintre, c'est un écrivain, c'est un type qui vit d'expédients, etc. Et qui vont en crever parce que voilà, ils ont des désirs artistiques qui n'aboutiront jamais. Ils n'ont pas d'argent, etc. Et finalement, ce que ça symbolise, cette capsule et le fait de partir sur la Lune, c'est qu'ils sont dans un autre monde.
Ils refusent le monde.
Et il y a une pureté dans cette production, justement, sur le refus du monde, le refus de la compromission. Et Mimi est quelqu'un de compromis, quelque part. C'est quelqu'un qui va coucher avec le petit vicomte quand Rodolfo la laisse et puis qui revient mourir parce que, bon, voilà, elle a plus de manchons. Elle n'a plus rien et elle est plus désirable parce qu'elle est malade. Et donc, je trouve que là, ici, on a vraiment tout d'un coup quelque chose de vraiment tragique. On passe du drame à la tragédie. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant dans cette production.
Guillaume Thion, parce qu'il faudrait parler de musique hein, quand même, pas que de la mise en scène.
On va.
Ben oui, mais il y a Mélanie Pressler qui attend.
Oui, tout à fait d'accord avec vous aussi sur la puissance de l'image, parce qu'à un moment aussi, donc à l'ouverture de la deuxième partie, donc troisième et quatrième acte, quand on voit les collines lunaires, la neige qui tombe, la chaudière de la station spatiale, le cosmonaute, les infrabasses, les battements de cœur, là tout d'un coup on se dit, même si les procédés sont ce qu'ils sont, etc., on a affaire, on a devant nous une espèce de geste artistique qui est assez fou en fait, et qui justement va bien dans l'idée qu'on peut se faire de l'art bohème, c'est-à-dire l'art contre quelque chose, là en l'occurrence contre le public qui n'a pas aimé, contre l'histoire de Puccini, enfin contre Puccini, contre tout le monde finalement, et c'est assez réjouissant de voir ça.
Alors, plus beaucoup de temps pour parler de musique, ce serait un con pour la bohème, et les débuts de Gustavo Dudamel, Anna Segalevich.
Fan moi
Ah, ça c'est Mario Dron qui répond.
J'étais fan parce que tout d'un coup, cet orchestre de l'opéra, alors c'est pas du tout quelque chose qui peut mettre en défaut Philippe Jordan, qui en est le directeur musical, mais moi j'ai entendu un autre orchestre. J'ai entendu un orchestre tout d'un coup avec une espèce de souplesse, quelque chose de presque, comment dirais-je, pas désinvolte parce que c'était fait de manière extrêmement, mais une espèce de facilité, une tranquille, voilà, et des couleurs et vraiment je suis pas non habituellement forcément séduite par tout ce que fait Dudamel, mais là je dois dire que j'ai chapeau.
Anna Segalevich.
Bah oui, je suis complètement d'accord. Il y a une fluidité qui est incroyable. Tout glisse ça glisse pas d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de consistance. Hein. Il y a une richesse de timbre. C'est chatoyant tout le temps et c'est extrêmement bien équilibré et tenu. C'est-à-dire que c'est complètement libre et en même temps c'est absolument maîtrisé. Donc c'est absolument magnifique. Et tout est beau, les cuivres, les cordes, les vents, chaque pupitre sonne et très ensemble, et l'équilibre fausse orchestre est aussi très réussi.
Ouais. Guillaume Thion.
Oui, ça a tellement glissé que j'ai trouvé ça effectivement aussi très beau à l'oreille. Ça m'a pas perturbé parce que mon attention était quand même bien plus focalisée sur la mise en scène. Et j'ai aussi senti qu'il avait eu, on va dire, l'élégance et le professionnalisme, évidemment, de ne pas insister sur l'émotion puccinienne et de la laisser éclore et non pas jaillir. Et ça, c'est très important.
Par ailleurs.
Non, au niveau des derniers Jedi qui sortent demain au cinéma et tous les cinémas sont pleins, je pense que ceux qui s'intéressent aux grandes sagas spatiaux galactiques peuvent toujours aller voir la bohème, il reste des places.
Oui.
C'est pas toute tribu dehors, c'est ce qui est beau dans cette production, et du point de vue des chanteurs et du point de vue de l'orchestre et du point de vue de la mise en scène. C'est une émotion qui est profonde, il y a une nostalgie, c'est l'esprit est juste. À tout point de vue, chanteur, fausse et mise en scène, il y a la nostalgie, il y a la tendresse et il y a l'amour douloureux, les remords et le cœur serré. On a ça.
Un interprète parmi le cast que vous avez envie de citer?
Ah, mais j'ai beaucoup aimé le... Alors, si y en a qu'un, bon...
Un chacun.
Ok, Atala Ayan, bon, c'est quand même... Voilà, c'est Rodolfo. Il m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il est touchant aussi. Il n'est pas encore totalement... La projection n'est pas immense, mais il a un timbre de miel. Il est extrêmement incarné. C'est très fin et il est émouvant, quoi, vraiment dans tous les duos et quand il est seul à la fin, c'est quand il dit non après sa mort, c'est vraiment très beau.
Vous avez vos aspirations légendaires. Ouais. Marie Audreau.
Oui, le Rodolfo qui
non, est... un autre.
Le Roberto Tagliavini en Colline, que j'ai trouvé magnifique, et notamment pour cette espèce de balance qu'il avait entre un côté presque la basse presque orthodoxe, hein, et puis quelque chose d'extrêmement léger, de fluide. Et voilà, j'ai aimé ce personnage que j'ai trouvé très bien incarné pour une fois, alors que souvent on a des Collines qui sont un peu plates.
Comme c'est bien dit. Guillaume Thion, pour finir.
Et bah, Sonia Yoncheva, puisque nous avons eu la chance de l'écouter, elle n'a participé qu'à la première. Elle n'était pas en très grande forme, son interprétation était, on va dire, en dents de scie. Je pense qu'elle choisissait ses moments. C'est-à-dire, ses solos étaient bien plus réussis que les scènes d'ensemble. Il y a des fois, à la fin du premier acte, par exemple, elle semblait complètement perdue. On a appris ensuite qu'elle était malade et donc elle n'a plus participé à aucune des autres représentations qu'elle aurait dû assurer. Et voilà, mais il y a quand même du coup un problème Yoncheva parce que entre Eugène Onegin et Tatiana qu'elle aurait dû jouer donc en juin plus cette bohème, les spectateurs qui ont payé leur place en juin pour voir Yoncheva à Paris et en décembre pour voir Yoncheva à Paris n'ont pas pu la voir alors qu'elle était à Paris. Ou la voir, sinon maintenant au Met, hein, évidemment, dans 15 jours pour sa première Tosca, en espérant qu'elle ne soit plus malade.
Ben, on verra, on prendra des nouvelles d'ici là. Et on finit vraiment avec un commentaire, Boris Pino.
Oui, Rebecca West sur Facebook admet que la transposition dans l'espace de la bohème de Puccini est tout à fait arbitraire. Mais si on se laisse faire, c'est bouleversant, à la fois logique et poétique. La scène du café est un rêve splendide. Non, vraiment. Laissons le public hurler. Je vous parie que cette mise en scène va devenir un classique.
Voilà, mot de la fin pour cette dispute autour de la bohème. L'opéra de Puccini, en ce moment, à l'affiche de l'Opéra de Paris jusqu'au 31 décembre. Diffusion le 14 janvier sur France Musique.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute musique, c'est le CD Fantaisie et Sonate de Mozart, interprété par Menahem Pressler, édité par la Dolce Volta. Il va fêter ses 94 ans dans quelques jours. Et il n'en finit pas d'explorer le répertoire mozartien. À titre d'exemple, la fin de la Fantaisie en lutte mineure que Schell 475. Thank you. Menahem Pressler, ce nouveau CD, Fantaisie et Sonate de Mozart chez Dolce Volta. Anna Sigalevitch, pour commencer.
Oui, alors il faut prendre en considération l'homme qui a donc presque 94 ans, comme vous le disiez Arnaud, dans 4 jours, qui a une histoire qui est très intéressante, qui est né en Allemagne, qui a immigré en Palestine, qui ensuite est allé aux États-Unis, qui a gagné le concours de Bussy, qui a fondé avec deux autres musiciens le Beaux-Arts Trio en 1955, trio légendaire, ils ont fait je crois plus de 6000 concerts ensemble, et donc à je crois 85 ans, quand le dernier violoniste au moment du départ de Daniel Hope, donc en 2008, il n'a pas eu envie de le renouveler, et donc il s'est lancé dans une carrière solo.
Ce qui est quand même assez génial.
Donc c'est génial, enfin, je veux dire, on ne peut qu'aimer cet homme.
Mais Anna, il avait commencé quand même comme pianiste soliste.
Non, bien sûr, oui. Il avait commencé comme pianiste soliste.
Ça lui est tombé dessus, le trio.
Exactement, il avait envie d'enregistrer un trio, du Mozart, d'ailleurs, et puis on lui a proposé de musiciens, et puis ça a pris une ampleur dingue, et donc du coup 60 ans de musique de chambre de façon très très intensive avec beaucoup de Mozart, mais bon, beaucoup d'autres choses. Ils ont gravé un répertoire extrêmement riche et large. Voilà. Donc il faut prendre en considération ça, il faut prendre en considération l'homme physiquement, il est irrésistible, il est tout petit, il a 94 ans, on a envie de le serrer dans ses bras, donc on l'aime quand on le voit.
On risquerait de le casser quand même,
parce qu'il est
tout petit, on le pose sur ses coussins pour qu'il joue.
C'est typiquement un disque qu'il faut...
Non mais c'est vrai.
Ça confirme ma théorie qu'il ne faut pas écouter les disques à l'aveugle. Parce que les gens ont une histoire. Ah, et
vous avez une théorie là-dessus?
Bon, je sais pas, non, j'en ai inventé, mais.
D'accord.
Non, mais je veux dire, ça compte l'histoire des gens, ce que sont les gens, leur âge, etc. Ça compte. Ah. Donc, c'est un Mozart qui est très particulier. C'est le Mozart d'un homme qui a un certain âge, clairement. Ouais. Donc ça marche pour certaines choses, ça marche beaucoup moins pour d'autres. Voilà, par exemple, la fantaisie de Mozart qu'on entend, pour moi, il y a beaucoup plus d'arêtes, il y a beaucoup plus de contrastes. Là, le passage final qu'on entend, c'est quand même un moment qui doit être joué allegro. Bon, il est même pas à 60, quoi. Donc c'est
battement cardiaque.
Donc, alors, on est plus proche de la Adagio que de l'allegro, honnêtement.
C'est très beau
mais
pour autant.
Mais en même temps, il y a beaucoup de rondeur, il y a des idées, les phrases sont magnifiques, il va au fond des choses et on sent...
Pour moi, c'est une interprétation qu'on n'avait pas.
Voilà, on sent qu'il savoure chaque note. Ouais. Il y a le plaisir qu'on sent est contagieux. Ouais. Il faut prendre le temps d'écouter ce disque. Et quand on prend ce temps, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup dans les deux mouvements lents des sonates. Bon, le premier mouvement de la sonate en do mineur... Köchel 457, là c'est pas possible, enfin pour moi c'est pas possible parce que c'est presque deux fois en dessous du tempo, donc ça me pose un problème.
Ça fait beaucoup.
Voilà, je le dis, mais en même temps il y a des choses qui sont tellement magnifiques que c'est un disque que j'ai pris énormément de plaisir à écouter.
Guillaume Dion sur ce disque.
J'ai regardé, effectivement il y a 3 minutes de différence par exemple entre Brendel et lui. Sur quelque chose. Lui, Brendel le fait à 8 minutes 30. Oui, je sais, j'ai pris celui-là comme ça. Et en fait, effectivement, c'est un tiers de plus, donc en lenteur. Hein. Et ça apporte effectivement tout ce qu'on peut imaginer de profondeur, etc. Et je trouve effectivement que ça marche beaucoup mieux pour la fantaisie, qui est une forme libre, justement, sortie des codes, où Mozart se laisse vraiment aller, justement, peut-être une première œuvre pré-romantique dont tout le monde s'inspire, et quand on l'écoute, on entend évidemment toujours à chaque fois et Beethoven, et Schubert, et même le Liszt de la sonate en si mineure. Et effectivement, ça a une espèce de densité, de relief, mais incroyable. Après 93 ans, effectivement.
Mario Draud.
Mais bon, je vous trouve un peu sévère parce que c'est vrai que les tris sont pas très déliés.
On a été sévère.
Qu'il y a des passages de main gauche où on sent quand même il y a pas d'arthrose, mais il y a quand même la musculation qui fonctionne un petit peu moins.
Il fait moins de musculation maintenant.
Voilà. Mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que c'est un Mozart qui vient on a l'impression qu'il vient de très 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 loin et qui s'arrête pas. C'est comme s'il le prenait en route et qu'on est dans une espèce de grand voyage. Et en même temps, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il n'y a pas de valeur différente entre le silence et la musique. Il y a quelque chose qui est complètement intégré, les deux. Il n'y a pas de pôle d'attraction, ni de pôle de répulsion. On n'est pas dans quelque chose. Il n'y a pas de volonté de transmettre quelque chose, de dire quelque chose. On est dans un Mozart où il est tranquille chez lui, il joue son Mozart, il se fait plaisir.
C'est vrai.
Et tout le monde est convié à écouter, à siroter ce Mozart qu'il est en train de jouer, avec ses moyens à lui, ce qu'il est, sa vie, etc. Et je pense que c'est quelqu'un, s'il y a une joie très profonde, on sent que c'est quelqu'un qui vit pour ça. Et finalement, commencer une carrière à 85 ans, mais c'est tellement incroyable et tellement impossible à imaginer que je crois qu'il est dans une sorte de... Voilà, de
dans le plaisir partagé, ce
voilà,
que disait Anna
Sigalevitch. Il ne se pose même pas la question de savoir du pourquoi ni comment de cette musique. Et ça, je trouve ça très sympathique.
Guillaume Thion ?
Oui, et justement, c'est d'autant plus remarquable dans des œuvres qui sont un peu sombres, comme justement la fantaisie, où là, justement, le silence plus les basses et les escaliers d'arpèges diminués font vraiment, il se passe quelque chose et on l'entend vraiment de manière différente au-delà des 3 minutes en plus ou en moins. Je suis assez d'accord.
Parce que c'est une musique, il la pénètre plus qu'il ne l'empoigne. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a rien à prouver, il est revenu de tout.
Alors, vous n'êtes pas sûr, Mario Draud ? Vous n'êtes pas filmé, mais vous faites des mouvements quand même.
Ce soit pas la musique qu'il pénètre en l'occurrence pour le coup.
Oui, absolument.
Ah bon, non, parce que j'avais compris
qu'il pénétrait plus qu'il ne l'empoigne.
Ah bon, d'accord, j'ai compris que c'était lui qui pénétrait la musique, donc je comprends.
Oui, bon, c'est un peu pareil.
Vous nous ferez un schéma.
Bon, mais en tout cas, voilà, j'ai eu le sentiment qu'il va au fond des choses et qu'il regarde, Mozart droit dans les yeux. Quoi. C'est un Mozart qui vous regarde et qu'il est ce qu'il est. C'est dénué de toute afféterie et de tout maquillage. Il y a quelque chose qui est comme
oui,
ça.
Oui, ça glisse, ça voilà. Glisse sur lui, ouais. De lui, de lui. Ça
de lui, plus exactement.
Oui, oui.
Bon, et pour les sonates ?
Pour les sonates, c'est Marie vrai que ça marche un petit peu moins bien, il faut bien le dire. Mais bon,
même les deux mouvements longs, ils sont
en même
beaux.
Temps, c'est vrai qu'on a tellement, on est pollué aussi par des tas de pianistes géniaux qui font ça avec tellement de personnalité.
Cette phrase, on est pollué par les tas de pianistes géniaux.
Oui, c'est vrai. Et qui ont tellement de personnalité que ils vous convainc, et définitivement, ils vous ont vendu leur sonate de Mozart. Donc après, c'est vrai qu'on a du mal. Mais je suis d'accord avec Anna. Il a une bouille. Il a cette bouille toute ronde, et c'est vrai que c'est un petit bonhomme, c'est un lutin, il y a quelque chose de... Voilà, et c'est un type qui a vécu tellement de choses, qui a tellement voyagé.
Mais oui,
on a envie de lui dire, bah oui,
qui a tout connu,
tu peux t'asseoir devant ton piano et te reposer à jouer Mozart.
Et ça nous fait du bien.
Et c'est légitime et ça nous fait du bien.
Ça lui fait du bien à lui, ça nous en fait à nous.
Exactement.
Voilà, oui, je suis absolument d'accord.
On termine là-dessus ? Bon, Guillaume Thion, rien à ajouter, pas mieux. Peut-être qu'il reviendra encore en concert. Il était à la scène musicale ou à la Philharmonie juin dernier. Bon, voilà, il continue.
Non, parce qu'il a échappé à une rupture d'anévrisme il y a 2 ans.
Il était à Montpellier il y a un an et demi, officiel Radio France.
Il a été opéré en urgence, etc.
Enfin, il est là. Profitons-en. Oui, profitons de ce nouveau disque. C'est des fantaisies et sonates de Mozart, interprétées par Menahem Pressler. Disque édité par la Dolce Vita. On est un petit peu en avance, quand même. Il n'est que 19h56. Bon, on va pas passer un tout petit extrait d'un tout petit extrait, ce serait un peu dommage. Non, il n'y a pas de concert prévu pour Madame Pressler, là, on est d'accord. Je ne dis pas de bêtises. Non, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Bon. Eh bien, on s'arrête là-dessus, on va prendre notre temps pour une fois pour le jeu de la dispute. Alors, l'information de dernière minute ou la précision de dernière minute soufflée par Guillaume Thion pour le Barbier de Séville.
Tout à fait. C'est que le Cast 2 dont on a beaucoup parlé.
Et dont on a dit beaucoup de bien.
Voilà, qu'on a bien vanté. Sera encore sur scène le 14 décembre.
Donc après-demain, il faut bien viser. Merci pour cette précision. Et effectivement, on passe maintenant au jeu de la dispute. Grégoire Difiore nous a rejoint. Pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner la réponse, Grégoire.
Quel artiste forgea dans les années 80 l'expression « figuration libre » désignant un groupe de 4 peintres ? Et la réponse était Ben.
On fait gagner ce soir des invitations pour la pièce chorégraphique « Professeur » de Maud Le Pladec. C'est l'occasion du festival de danse de Cannes. Des places à gagner pour cette représentation qui aura lieu samedi prochain, 16 décembre, à 18h au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. La question est...
À quel compositeur la chorégraphe Maud Le Pladec a consacré un diptyque ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain, poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez demain. pour le faire via le compte Twitter Dispute FC. Rendez-vous donc demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Corinne Rondeau, Anaël Pijat et Stéphane Coréard. À notre affiche, Albert Renger Patch, Les Choses, c'est au Jeu de Paume. Photographisme, Klein Iffert Zamesnik, c'est au Centre Pompidou. Et l'exposition Julio Leparc, Bifurcation, à la Galerie Perrotin.